Nous lirons quelques versets dans la deuxième épître à Timothée au chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Nous lirons à partir du verset 16. 2 Timothée 4, verset 16. Dans ma première défense, personne n'a été avec moi, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé. Mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié, afin que par moi la prédication fût pleinement accomplie et que toutes les nations l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre et me conservera pour son royaume céleste. À lui la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous lirons aussi dans ce même chapitre, à partir du verset 6. Je sers déjà de libation et le temps de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais m'est réservée la couronne de justice que le Seigneur, juste juge, me donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. Quelques mots seulement. Voilà donc une circonstance bien pénible et bien difficile pour l'apôtre Paul. Cet homme qui avait suivi fidèlement le Seigneur, appelé, nous le savons, alors qu'il s'en allait avec des lettres pour arrêter, lier des chrétiens et les amener à Jérusalem pour les juger. Et le Seigneur l'arrête. Il va servir le Seigneur Jésus. Et quel service! Et son service se termine à travers ces épreuves où il est à lui-même emprisonné. Alors le voilà dans ce verset 16. Dans ma première défense, personne n'a été avec moi, mais tous m'ont abandonné. Le cœur de l'apôtre devait sans doute bien être triste. D'être là devant ses juges, et on sait le jugement qui était donné à Rome concernant les chrétiens. C'était les bêtes féroces. Et l'apôtre voit sans doute venir devant lui ces moments terribles. Et puis il y a donc ici cette première défense. Il y en a eu d'autres. Il y a eu d'autres apparitions de l'apôtre devant ses juges. Mais ici, voilà, personne n'a été avec moi, mais tous m'ont abandonné. L'apôtre se trouve seul, et ceux avec qui il a marché, et ceux à qui sans doute il a annoncé l'Évangile, qui ont connu le Seigneur Jésus pour sauveur, quel bonheur de te connaître, mon sauveur. C'est ce que nous pouvons dire. C'est un témoignage qui montre la relation avec la personne du Seigneur Jésus, mon sauveur. Et le Seigneur et l'apôtre lui-même pouvaient en effet parler de son sauveur. Et nous avons lu dans le verset 6, « Je sers déjà de libation, le temps de mon départ est arrivé, j'ai combattu le bon combat. » Une longue vie de service à travers bien des épreuves. Nous le savons, il énumère dans une des épîtres aux Corinthiens tout ce qu'il a rencontré dans son chemin, de la part des hommes, de la part des juifs, de la part de responsables du peuple. Et ici, il dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et nous pouvons demander au Seigneur Jésus, déjà maintenant sur cette terre, de pouvoir, en effet, garder la foi, aller jusqu'au bout dans cette course avec le Seigneur Jésus. Il est notre berger, il est celui qui est passé par ces mêmes moments sur la terre, qui a connu cette poursuite des responsables du peuple. Ils avaient le rouleau du livre. Dans le rouleau du livre, on parlait de lui. Et il était là, présent sur la terre. Ils sont aveuglés. Ils pensent à eux. Ils ne voient que leur position. Ils ne voient que les avantages qu'ils ont. Et ils ne découvrent pas que celui qui est devant eux, que celui qui fait ses miracles, qui répond à tant de besoins dans ce monde, eh bien, est celui dont il est parlé par les prophètes, celui qu'ils auraient dû reconnaître, qu'ils auraient dû connaître, mais ils n'en veulent pas. Et pourtant, le peuple lui-même parle d'un prophète, parle de lui comme quelqu'un, en effet, qui a apporté une réponse aux langueurs, aux infirmités, aux douleurs. Mais ces responsables ne voient rien dans la personne du Seigneur Jésus. Eh bien, l'apôtre peut comprendre alors ce que cela a été pour le Seigneur Jésus. Et parfois, dans notre chemin, il nous arrive aussi de rencontrer des douleurs. Peut-être personnellement, dans nos cœurs, dans nos corps aussi, mais peut-être aussi dans les circonstances, dans ce que le Seigneur Jésus nous donne. Et cela pour nous apprendre, pour nous faire connaître le Seigneur Jésus. Alors il peut dire au verset 8, « Désormais m'est réservée la couronne de justice que le Seigneur juste juge me donnera dans ce jour-là. » Dans ce jour où les récompenses seront données, là-haut dans le ciel, il va recevoir la couronne de justice. Oh, il était bien sûr bien enseigné, pourrions-nous dire, à travers les Écritures, par l'Esprit qui l'avait conduit et qui l'avait sans doute formé à comprendre toutes les pensées de l'Église, de l'Assemblée, mais aussi du service de chacun sur la terre. Alors, oui, il va recevoir cette couronne de justice. Et il dit aussi, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. Ceux qui aiment le moment où le Seigneur paraîtra sur les nuées, le moment où le Seigneur posera ses pieds sur la montagne des Oliviers pour délivrer son peuple et pour instaurer son règne de justice, la couronne de justice. Pour nous, c'est une justice divine dans le ciel, mais il y aura ce moment où sur la terre, la justice sera rendue. La justice habitera sur la terre à ce moment-là, pendant ces 1000 ans. Mais nous nous hériterons de cette justice, nous serons dans la justice, non plus simplement par sa manifestation sur la terre, mais dans la jouissance pleine et entière de ce que le Seigneur a accompli à la croix. Alors il va répondre dans ce verset 16, une réponse similaire à ce que le Seigneur Jésus a pu dire. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et il peut dire ici que cela ne leur soit pas imputé. Il a son cœur qui vibre pour ceux qui l'ont suivi. Voilà, ils ne sont pas là, c'est un constat. Mais ils pensent à eux. Ils savent combien le chemin est difficile. Et on le sait qu'à la croix, quelques-uns étaient dans un endroit pas trop loin et ils pouvaient contempler ce moment où le Seigneur est crucifié, ce moment où toute la haine de l'homme se fait jour contre lui. Il regarde non loin de la croix, nous dit la parole. Mais ici, il est seul. Personne n'a été avec moi, tous m'ont abandonné. Alors on peut y croire, mais à quoi cela servit tout cela? Tout ce service? Mais il y a quelque chose de bien plus grand qui se tient auprès de lui. Mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié. Voilà cette présence du Seigneur Jésus, présence personnelle, et que l'apôtre va ressentir d'une manière si belle. Le Seigneur s'est tenu près de moi. Voilà, à travers nos moments dans nos vies, il y a des moments où le Seigneur vient, il s'approche. Parfois, il faut le reconnaître, le Seigneur est là à côté de nous, et nous souffrons peut-être, et nous ne réalisons pas qu'il est là. C'est peut-être par après, quand les choses se terminent, et qu'on s'aperçoit de la solution qui arrive, à laquelle peut-être nous n'avions pas pensé, que deux fois on a fait l'expérience. On demande, on voudrait bien que la chose se passe, on agit pour que la chose se passe telle qu'on le désire. Et puis le Seigneur nous montre que ce n'était pas cela, la bonne réponse, et que nous avons à apprendre. Eh bien, le Seigneur s'est tenu près de moi. L'apôtre a pu sentir la présence du Seigneur à côté de lui, et il m'a fortifié. Celui qui a vaincu, celui qui est triomphant du tombeau, celui qui est monté dans le ciel, auquel le Père a pu dire « Assieds-toi à ma droite ». Position ô combien élevée de se trouver à la droite de Dieu. Déjà dans ce monde, ne recherche-t-on pas d'être à la droite d'une personne importante, de pouvoir être accueilli, de dire « Mais viens t'asseoir à côté de moi ». Et combien on apprécie sans doute humainement de telles avancées. Mais ici, le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié. Le Seigneur est à la droite du Père et il vient se mettre à côté de nous. Dans son humanité qu'il n'a pas perdue, dans ce service qui est toujours le sien, il vient se tenir auprès de nous. Il nous fortifie. Alors, l'apôtre ne pense même pas à lui. Afin que par moi la prédication fût pleinement accomplie et que toutes les nations l'entendissent. Ce n'était pas pour lui-même qu'il était réjoui de sentir le Seigneur auprès de lui, mais afin d'accomplir son service, pour que la prédication fût pleinement accomplie, pour qu'il ne manque rien dans cette bonne nouvelle du salut, dans cet évangile que l'apôtre pouvait apporter. Et que toutes les nations l'entendissent. Il y avait là, à Rome, au foisonnement de toutes sortes de peuplades. On venait, parce que c'était le centre du monde à ce moment-là, c'était l'autorité suprême qui se trouvait là. Et beaucoup de personnes venaient jusqu'à Rome, comme à un moment donné, on est venu jusqu'à Jérusalem, avant qu'elle ne soit détruite. Eh bien, il fallait que toutes les nations l'entendissent. Et alors, justement, ce sacrifice, cette condamnation, ce moment terrible pour tous ceux qui sont passés par là, j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur est intervenu pour qu'il n'aille pas dans cette arène où on lâchait les bêtes sauvages. Il a été délivré. Et il peut le dire, nous l'avons dans la parole de Dieu, qu'il y a eu cette intervention merveilleuse de la part du Seigneur Jésus. J'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre et me conservera pour son royaume céleste. Voilà ce qu'il nous dit aussi. Le Seigneur peut nous délivrer de toute mauvaise œuvre. Soyons attentifs sans doute à ce monde. Il y a tant de choses qui revêtent une belle apparence extérieure et qui peuvent, par derrière, être quelque chose de mauvais. Alors, le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre et me conservera pour son royaume céleste. Quelle paix remplit le cœur de l'apôtre quand il peut dire de telles choses. Il sait. Il connaît, il a cette foi dans ce que le Seigneur Jésus lui a dit et lui a donné. Alors il peut dire à lui la gloire au siècle des siècles. À lui la gloire, à la gloire à celui qui nous a aimés, à celui qui nous a sauvés, à celui qui nous a délivrés et qu'il le fera jusqu'à la fin. Dans Jean 13, le Seigneur aimait les siens, les aima jusqu'à la fin. Eh bien, que le Seigneur nous donne d'avoir sans doute ces expériences, ce combat que nous avons à livrer, mais aussi cette délivrance, de sentir le Seigneur à côté de nous quand l'oppression grandit, quand l'adversaire peut-être se présente là, et nous savons qu'il le fait, il rôde, il cherche, mais le Seigneur a vaincu. Et il peut ainsi nous apporter une réponse merveilleuse. Il élève nos cœurs, il nous donne de regarder vers le ciel, de le contempler dans la gloire et de dire dans nos cœurs, « Je vous ai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi. »
Nous avons donc lu ces paroles de l'apôtre Paul qui dit « J'ai gardé la foi ». Nous allons lire quelques passages supplémentaires. Nous allons lire dans la première épître à Timothée, chapitre 1er. Première épître à Timothée, chapitre 1. 1 Timothée 1, verset 18. « Je te confie cette ordonnance, mon enfant Timothée, selon les prophéties qui ont été précédemment faites à ton sujet, afin que par elles tu combattes le bon combat, gardant la foi et une bonne conscience, que quelques-uns ayant rejeté, ils ont fait naufrage quant à la foi. » Voilà, il est ici également question de combat, il est également question de foi et de garder la foi. Alors on peut se demander, qu'est-ce que c'est que la foi ? Comment est-ce qu'on garde la foi ? Et si l'apôtre Paul peut conclure cela à la fin de sa vie en disant « J'ai gardé la foi », c'est bien sûr par la grâce qui lui a été faite. Ce n'est pas par ses propres forces. Il le dit dans d'autres passages du Nouveau Testament. Il dit « Il n'y a pas de force en moi et en personne ». C'est-à-dire, c'est en Christ. Et il le dit d'ailleurs quand il dit à Timothée, dans la seconde épître à Timothée, chapitre 1, verset 13, il dit à Timothée, donc qui est plus jeune que lui, « Aie un modèle de saine parole que tu as entendu de moi dans la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le bon dépôt par l'Esprit Saint qui habite en nous. » Et donc, cette capacité à garder ce que Dieu nous confie, ça ne peut venir que de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui nous a été donné par grâce lorsque nous nous sommes tournés vers Christ et que nous l'avons accepté dans notre cœur. Et l'Esprit Saint, le Seigneur l'avait dit à ses disciples avant de quitter la terre, il leur avait dit « Le Père vous donnera un autre consolateur. » L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, cet esprit de sagesse qui vous sera donné, et cet Esprit Saint, le Seigneur nous dit, il vous enseignera ce qui me concerne, parce que l'Esprit Saint voit la gloire de Christ dans le ciel. Et lorsque nous avons l'Esprit Saint et que nous laissons l'Esprit Saint agir en nous, alors par la foi nous voyons la gloire de Christ. Et l'Esprit Saint aussi nous fait comprendre les Écritures. Vous savez, si vous donnez une Bible, qui est la parole de Dieu, à un incrédule, qui n'a pas de relation avec Dieu, qui n'a pas reçu l'Esprit Saint, il ne peut pas comprendre la gloire de Christ. Mais une fois que j'ai reçu l'Esprit Saint, alors les Écritures prennent toute leur ampleur. Il s'agit de garder la foi. Alors on peut se demander, c'est quoi la foi ? C'est un mot qu'on emploie souvent, tout petit mot. Alors nous avons une définition dans la parole de Dieu de la foi, c'est dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, au verset 17. Il nous est dit, ainsi la foi est de ce que l'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Voilà c'est quoi la foi. La foi, c'est la conscience, la confiance qu'on met dans ce que Dieu dit. La Bible, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire, quand nous lisons quelque chose dans la Bible, c'est Dieu qui le dit. Et si Dieu le dit, je le crois. Je mets ma foi dans les Écritures. Je l'entends, je constate que c'est la parole de Dieu. Alors je mets ma foi dans cela. Dieu dit, je crois. Et Dieu nous dit beaucoup de choses au travers des Écritures. À commencer par le message de l'Évangile. Et en Éphésiens chapitre 1, dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 1, il nous est dit au verset 12, « Nous qui avons espéré à l'avance dans le Christ, en qui vous aussi vous avez espéré, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, qui les arde de notre héritage pour la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. » Ayant cru, ayant mis notre confiance dans l'Évangile, la bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu sur la terre et qu'il a donné sa vie en sacrifice pour mes péchés, pour tes péchés. Ayant cru cela, eh bien, nous avons été scellés du Saint-Esprit de la promesse. C'est-à-dire que Dieu, alors, nous a, ayant cru cela, ayant mis notre confiance dans l'œuvre de Christ à la croix, Dieu nous a donné l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, ce sont les arts de notre héritage. C'est-à-dire comme un acompte de ce que nous allons connaître à l'avenir. Déjà maintenant, sur la terre, parce que nous avons l'Esprit Saint, nous pouvons déjà voir la gloire dans laquelle nous allons entrer plus tard. Nous pouvons déjà voir aujourd'hui la gloire du Seigneur Jésus qui, lui, est déjà dans le ciel et que nous allons bientôt rejoindre. C'est ça la foi. La foi, c'est l'enseignement des Écritures. C'est croire ce que les Écritures nous disent. Et les Écritures, elles nous parlent de Jésus-Christ. Chaque fois que nous lisons un passage dans les Écritures, assurons-nous de rechercher un caractère du Seigneur Jésus, par similitude ou par contraste. Le Saint-Esprit va nous diriger dans toute la vérité. Le Seigneur Jésus le dit lui-même, « Moi, je suis la vérité. » Il faut garder la foi. Il faut garder les Écritures. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut maintenir notre confiance dans ce que nous lisons dans les Écritures. Comment c'est possible? En vivant par l'Esprit. En vivant par l'Esprit. En laissant Dieu agir en nous au travers de l'Esprit Saint. C'est quelque chose de très pratique, ça paraît peut-être théorique, mais par exemple, avant de lire, chaque jour, dans la Bible, on prie. Et on demande à Dieu, « Dirige-moi par ton Esprit pour que durant cette lecture que je vais faire, que ce soit 3 minutes ou 3 heures, je comprenne quelque chose qui concerne le Seigneur Jésus, celui qui m'a aimé, celui qui s'est donné en sacrifice pour moi. Il est plus que cela. Et l'Esprit-Saint va nous révéler qu'il est beaucoup plus que simplement notre Sauveur pour l'éternité. Il est notre Sauveur sur la terre, celui qui va nous aider à avancer dans le chemin et à éviter les pièges et les péchés qui vont se dresser devant nous. Il est ce bon berger qui va nous protéger, qui va nous diriger exactement là où il veut que nous soyons pour entendre plus ce qui concerne la parole de Dieu. C'est ça les gras pâturages, les eaux paisibles. Il est celui, au travers des Écritures, celui que nous attendons, cette étoile du matin. Nous scrutons le ciel en attendant que la nuit de ce monde, la nuit de ténèbres, la nuit morale de péché dans lequel nous vivons, eh bien, nous scrutons cette étoile. Il est cette étoile du matin, celle qui annonce un jour nouveau lorsque nous entrerons dans la gloire du ciel. Et puis, il faut garder ces choses dans notre cœur. Il faut garder la foi, il faut garder l'espérance que le Seigneur vient. Et il y a beaucoup d'autres aspects. Alors, les Écritures nous parlent du Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qu'on fait donc avec ces Écritures, avec la Bible? Qu'est-ce qu'on fait? C'est un grand cadeau que Dieu nous a fait là, ce livre. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on y met notre cœur dedans? Est-ce qu'on y met notre confiance? Est-ce que nous gardons, je ne dis pas simplement de garder une Bible à la maison dans un tiroir, mais de garder ce qu'elle nous dit dans notre cœur? Garder, vous savez, qu'est-ce qu'on garde? Il y a des choses dont on se débarrasse dans la vie, et il y en a d'autres qu'on veut absolument garder. Pourquoi? Quand on se débarrasse de quelque chose, c'est qu'on n'y donne pas beaucoup de valeur. Bon, ça, j'en ai pas besoin. Il y a tellement longtemps que je l'ai utilisé, je ne sais même plus que je l'avais. À quoi bon le garder? Alors je m'en débarrasse. Mais quand on trouve quelque chose, ou on retrouve quelque chose qui a de la valeur ou qui en avait auparavant et qu'on a oublié, c'est dommage. Parfois, on oublie dans notre vie des choses qui ont beaucoup de valeur pour un temps. Puis on retombe dessus, on se dit mais c'est précieux ça, je le garde, ça je ne m'en débarrasse pas. Mais la parole de Dieu, c'est ça. C'est quelque chose, pour celui qui est né de nouveau, ça a beaucoup de valeur. Il faut le garder. Il ne faut pas s'en débarrasser. Il ne faut pas le négliger. Alors la parole de Dieu, on la garde. Et la garder, ça veut dire on y donne beaucoup de valeur. On protège quelque chose qu'on garde. On ne le soumet pas à toutes sortes de risques ou de dangers. C'est précieux, je le garde. Je le mets en sécurité. Donc je protège mon enseignement biblique et je ne l'expose pas à toutes sortes de fausses doctrines. Je garde mon cœur de tout ce qui pourrait faire des interférences avec la pureté et la valeur de ce qui est dit là. Que chacun trouve des exemples pratiques dans sa propre vie. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on donne de la valeur à quelque chose? Donc on le garde, mais on ne fait pas que le garder. Quand quelque chose a beaucoup de valeur, quand on reçoit un outil qui a beaucoup de valeur, on l'utilise. Donc on la met en pratique. C'est aussi ça la foi. Si je crois quelque chose, ça change tout dans ma vie. Il y a certaines personnes qui disent « moi je crois, mais je ne pratique pas ». Ça ne veut rien dire. Si tu crois, ça change tout. Si le Seigneur Jésus, si Dieu te dit « tu es un pécheur perdu » et si tu ne te repens pas, tu iras en enfer. Si je le crois, ça change tout. Et si Dieu me dit « mais il y a une solution, Jésus-Christ est mort pour toi sur la croix. Et si tu le crois, tu n'iras pas en enfer, tu iras au paradis. » Ah, si je le crois, ça change tout. Si je ne le crois pas, ça ne change rien. Je continue à vivre comme auparavant. Si je le crois, ça change tout désormais. J'ai la joie dans le cœur d'avoir un sauveur. J'ai la joie d'avoir mes péchés pardonnés. Et puis ça change tout dans ma façon de vivre, parce que je comprends maintenant l'horreur du péché aux yeux de Dieu et combien Christ a dû souffrir pour moi à cause de mes péchés. Donc ça change tout. Désormais, maintenant que je suis racheté, je vais vivre différemment, je vais éviter de pécher consciemment. Donc il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Dans Matthieu, au chapitre 7, il y a cette parabole que le Seigneur donne. Il dit, voilà deux hommes qui entendent la parole de Dieu. Et il y en a un, le Seigneur dit, il est insensé. Et puis l'autre, il est prudent. Donc il y a un insensé, il y a un prudent. On va dire, il y a un insensé, il y en a un qui est sensé, l'autre qui est insensé. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans cette parabole? Eh bien, tous les deux, ils entendent la parole de Dieu. Il y en a un, il est insensé, il n'y prend pas garde. Et qu'est-ce qu'il fait? Il construit sa maison sur le sable. Et puis l'autre, il entend la parole de Dieu, il le croit. Et il construit, il bâtit sa maison sur le roc. Et puis les problèmes arrivent, les mêmes problèmes pour l'un comme pour l'autre, problèmes extérieurs, la pluie, le vent, les torrents. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le résultat? Ah, ça change tout pour celui qui a gardé la foi dans ce que Dieu avait dit, qui a bâti sur le roc. C'est quoi le roc? C'est le Seigneur Jésus lui-même, c'est l'enseignement de la Bible. Si je prends mes décisions pour bâtir ma vie sur le roc, sur Jésus-Christ, sur ce que je comprends par l'Esprit Saint de lui au travers des Écritures, viendront les problèmes de toute façon. Mais je resterai ferme parce que ma sécurité dépend des Écritures, de la parole de Dieu. Mais si je n'ai pas tenu compte de tout ça, j'ai bâti ma vie sur le sable, quelque chose de mouvant. On ne bâtit pas sur les sables. Les architectes le savent. C'est très dangereux de bâtir sur le sable. C'est du travail pour rien. Un jour ou l'autre, ça va s'écrouler. Si je bâtis sur mes propres émotions, sur ma fortune, mes capacités personnelles, ça change très vite, ça. Il suffit d'un jour un accident et on n'a plus de capacité personnelle. Ah, qu'est-ce qui reste? Ben, comme cet homme insensé qui n'a pas pris ses décisions de vie pour bâtir sa vie sur la parole de Dieu, eh bien, il nous est dit un grand fracas. Un grand fracas. Il ne reste plus rien, tout est par terre. Alors, il faut pratiquer la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait encore avec la parole de Dieu, avec la Bible? Eh bien, on la médite. Il ne suffit pas de lire, il faut y réfléchir. Tiens, j'ai lu cela, je ne comprends pas bien. Et il y a beaucoup de passages que nous ne comprenons pas bien à la première lecture, ou même à la dixième, ou même après 10 ans. Ce n'est pas grave. Il faut continuer à réfléchir dans la dépendance du Seigneur. Psaume 119, par exemple. Dans le psaume 119, au verset 15, il nous est dit « Je méditerai tes préceptes et je regarderai à tes sentiers. » Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublierai pas ta parole. Je n'oublierai pas ta parole. Oublier, c'est souvent un problème. On a oublié. On avait pourtant entendu. Mais on a oublié. On aurait dû s'en souvenir au moment où ça devait être utile. Pourquoi on a oublié? Souvent, on oublie ce que Dieu nous dit parce qu'on pense à autre chose. Parce que notre cœur, il est limité, nos pensées aussi. Il faut faire de la place. Et si notre cœur et nos pensées sont remplies de choses du monde, ben, on a tendance à oublier ce que Dieu a dit. Il n'y a plus de place. On met dehors. Graduellement, souvent. Ce n'est pas du jour au lendemain, mais graduellement, on s'habitue au mode de pensée du monde. Et on commence à avoir ses pensées comme tout le monde. Ben, tout le monde le fait, moi aussi. Est-ce que j'ai oublié ce que Dieu m'a dit? Je ne suis pas comme le reste des gens qui ne connaissent pas Dieu. Je suis maintenant un enfant de Dieu, un enfant de lumière. Il faut marcher d'une manière digne de l'appel dont nous avons été appelés. Il ne faut pas l'oublier. Ici, il dit « Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublierai pas ta parole. » Encore une fois, c'est une question de cœur. Est-ce que j'ai de la joie à lire la Bible ou c'est une corvée? L'homme nouveau, animé par l'Esprit Saint en moi, lui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Et c'est un plaisir de méditer ce que Dieu dit. Dieu donne beaucoup de ses pensées, il révèle beaucoup de pensées, des pensées très, parfois très simples et en même temps très profondes. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, dans ses épîtres, souvent, il parle, il révèle les pensées de Dieu par l'Esprit Saint qu'il a reçu. À la fin du paragraphe, il s'exclame en gloire pour le Seigneur. Il dit certaines choses, lui qui nous a élus avant la fondation du monde, etc., etc., etc. Il faut méditer ces choses-là, parce que ça nous amène à l'adoration. Auquel à lui soit la gloire au siècle des siècles. Voilà, c'est le résultat de la parole de Dieu qui agit en nous lorsque nous méditons véritablement. Il ne faudrait pas croire que nous allons arriver à l'heure de l'adoration le dimanche matin et d'improviser ce résultat de la méditation. Parce que l'adoration est un résultat de la méditation. Je dis ça pour les frères qui s'expriment, mais je dis ça aussi pour les sœurs, qui s'expriment en pensée, en silence, mais en pensée devant Dieu. Et l'adoration, elle est de la même valeur devant Dieu, qu'elle soit exprimée par la bouche, vocalement ou pas, parce que c'est un produit du cœur. Si nous méditons les choses profondes et simples aussi de Dieu, eh bien notre cœur va déborder de louanges et d'adoration pour le Seigneur. D'ailleurs, l'apôtre Jacques nous dit aussi, ne soyez pas seulement des auditeurs oublieux, mais des faiseurs d'œuvres. Voilà aussi un aspect, ce n'est pas seulement l'adoration, c'est aussi la mise en pratique. Lorsque nous méditons, nous comprenons mieux et nous mettons en pratique avec plus de soin, avec plus de justesse. Alors qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Donc on dit, il faut croire la parole de Dieu, il faut la garder, il faut la pratiquer. Il faut la méditer, il faut persévérer. On persévère parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas seulement un jour, une semaine, un mois, une année, c'est toute la vie. L'apôtre Paul l'a dit, il arrive à la fin de sa course, j'ai combattu le bon combat. C'est un combat, de mettre la parole en pratique au milieu d'un monde où on méprise Dieu. Où lorsqu'on fait quelque chose de bien ou d'honorable, les gens se moquent. C'est un combat. Les gens peuvent mépriser le bien. Le bien peut être appelé mal et le mal bien. Et c'est un combat. Ça peut faire mal. Mais voilà, il faut persévérer. On trouve ça aussi dans les évangiles. Qu'est-ce qu'il faut faire encore avec cette parole de Dieu ? Il faut la partager. Il faut la communiquer. C'est un trésor que nous avons reçu par grâce, mais c'est un trésor, quand on le partage, il ne diminue pas, il augmente. On a cette pensée dans la rencontre, le dialogue du Seigneur Jésus avec la femme samaritaine en Jean chapitre 4. Le Seigneur parle à cette femme, il lui fait des révélations très importante, très belle. Le Père en cherche de tel qu'il adore en esprit en vérité. Après, le Seigneur Jésus, il parle aussi de la vie de cette femme. Il connaît cette femme, il la connaît bien. Le Seigneur Jésus, il est Dieu lui-même, il a connaissance de toutes choses. Jusqu'aux pensées les plus profondes de notre cœur, il les connaît. Il se révèle à lui, il se révèle à elle. Elle reconnaît qu'il est différent. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle court vers la ville. Elle dit, voilà un homme qui a dit tout ce que j'ai fait. Et elle parle de ce que le Seigneur lui a dit. Et qu'est-ce qui se passe ? L'effet, c'est que d'autres personnes vont venir pour écouter aussi. Donc, la parole de Dieu, il faut la partager. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus, on va lire un autre passage, en Matthieu, à la fin de l'évangile, de Matthieu 28, c'est une mission qu'il nous donne à chacun de ses disciples. Il leur dit, Jésus, verset 18, « Jésus s'approchant leur parla, disant, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Voilà. Le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur avait parlé à ses disciples. Il leur demande, il leur donne comme mission d'aller partager ces choses, d'aller communiquer toutes les choses que je vous ai commandées. C'est pareil pour nous. Nous sommes disciples du Seigneur. Si nous le suivons, si nous nous laissons enseigner par le Seigneur Jésus, nous sommes ses disciples. Eh bien, nous sommes appelés à prendre cette parole que nous avons reçue et à la communiquer, à commencer par l'Évangile. Et ensuite, pas seulement l'Évangile qui sauve pour l'éternité, mais aussi l'enseignement des Écritures. Ce que nous appelons la saine doctrine. Le mot doctrine peut faire peur, mais ça veut dire enseignement. Enseignement. Et comme cet enseignement vient de Dieu, il est bon, il est pur, il est parfait. Il n'y a pas de honte à communiquer ce que Dieu nous a communiqué. Il n'y a pas de honte à parler, pas seulement de l'amour du Seigneur Jésus, mais aussi de sa sainteté, de ce qu'il attend de chacun de nous. Ça fait partie des paroles de vie qu'il nous a données. Alors qu'est-ce qu'on peut encore faire avec ça, avec la parole de Dieu? Elle est la vérité. Il y a encore une chose très importante qui nous est dite dans les Écritures, peut-être d'autres encore, mais à laquelle je pense maintenant, c'est qu'il ne nous est pas permis de retrancher ou d'ajouter à la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Parce que vous savez, mon cœur naturel, il est très rusé. Et puis, je peux très bien lire les Écritures et dire, ça ne m'arrange pas. Je n'ai pas envie de ça dans ma vie. Alors, c'est comme si je retranchais. Je pourrais prendre la page de ma Bible, la déchirer et la mettre à la poubelle. Voilà, j'ai une Bible avec une page en moins, déjà. Ça nous choquerait si je déchirais une page, là, physiquement, devant vous. Ça choquerait. Pourtant, spirituellement, on le fait facilement. On prend des chapitres entiers et comme si on les mettait de côté. Ça, c'est pas pour moi. Alors, on ne peut pas retrancher de la parole de Dieu. Dieu a dit ça. Ta parole, elle est la vérité. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas parce que nous vivons maintenant au XXIe siècle que c'est différent. C'est pareil. On ne peut pas retrancher. On ne peut pas ajouter non plus. Parfois, nous avons aussi la tendance à ajouter quelque chose à la parole de Dieu. Mais ce n'est plus la parole de Dieu. Si je retire et si j'ajoute, ce n'est plus la parole de Dieu. Ce n'est pas ça que Dieu a dit. Ce sont des demi-vérités. Ce n'est pas la vérité. Alors je peux très bien ajouter, parce que ça m'arrange, ça me rapporte quelque chose, ça me rapporte de l'honneur à moi, ou de l'argent, ou quoi que ce soit, un intérêt immédiat, humain, charnel, ça n'apporte rien au Seigneur. Alors nous avons ce privilège d'avoir la parole de Dieu écrite dans notre langue, que nous pouvons comprendre, d'avoir reçu l'Esprit Saint, d'avoir aussi cette communion entre nous, qui peut être très importante pour nous aider, nous encourager l'un l'autre à garder la parole de Dieu. C'est ce que l'apôtre Jean dit dans sa première épître, chapitre 1, il parle du Seigneur Jésus, il dit ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, il parle du Seigneur Jésus, avec qui il a vécu. Nous vous l'annonçons, voilà, il communique la parole de Dieu, afin que votre joie soit accomplie, afin que notre communion soit avec le Père et avec le Fils. Et ça nous aide souvent. Parfois, on peut être découragé, mais au contact d'un frère ou d'une sœur qui maintient, qui garde la parole de Dieu avec foi, alors on est remis sur la bonne voie et on peut s'aider et s'entraider l'un l'autre à garder ensemble le bon dépôt et aussi à combattre le bon combat ensemble, à maintenir pur et parfait, intact, ce que le Seigneur nous a demandé de mettre en pratique dans notre vie.